France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Il y a des textes qui ne cherchent pas la bien-pensance, ce gras du cœur, cette paresse intellectuelle qui nous submerge chaque jour un peu plus. Voilà comment débute l'avant-propos, signé Marc Duguin, de votre tract Gallimard. Gérard Prenier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Cadavre noir, c'est le titre de ce tract. Vous êtes Gérard Prenier, historien, spécialiste de la Corne de l'Afrique, ancien chercheur au CNRS, désormais consultant indépendant. Vous avez écrit notamment sur le Darfour, le Rwanda, l'Éthiopie. Début 2021 est sorti une histoire du Somaliland, le pays qui n'existe pas. Je l'ai dit en français, mais c'est en anglais, car le livre est sorti et publié en anglais. Nous allons parler avec vous ce matin de la situation en Éthiopie, un pays donc que vous connaissez très bien, mais aussi et d'abord de ce texte, ce tract, qu'on lit en tout cas comme le texte d'un homme très en colère. Qu'est-ce qui vous met en colère, Gérard Prenier? Quelle est l'origine de ce texte Cadavre noir que vous qualifiez vous-même à la fin de pamphlétaire en ajoutant entre parenthèses, dans le bon sens du terme, souhaitons-le?
Oui, eh bien peut-être c'est le fait que j'ai 50 ans d'Afrique derrière moi. Et que j'y suis arrivé en 1970, juste à temps pour voir Idi Amin Dada prendre le pouvoir, et que quand j'enseignais à la faculté en France, parce que chercheur au CNRS, on a toujours un peu des moments d'enseignement, hein, pour des. Alors excusez-moi parce que je suis plus anglophone que francophone, graduate student, je sais pas comment dire en français, des gens qui sont au-delà de la licence, quoi.
Oui.
Je disais à mes étudiants que le général Idi Amin Dada, je le considérais comme mon meilleur professeur de sciences politiques africaines. Il a lui-même régné sur un tas de cadavres, pas au départ d'ailleurs. Au départ, quand il a pris le pouvoir, étant donné que le président qu'il avait renversé, Milton Obote, était très impopulaire, je voyais Idi Amin qui circulait au volant d'une Jeep sans même un seul garde du corps dans les rues de Kampala. Deux ans après, j'ai été moi-même obligé d'être réfugié politique. C'est-à-dire, je voulais pas ajouter un cadavre blanc aux multiples cadavres noirs que je voyais autour de moi. J'ai été réfugié politique ougandais en Tanzanie. Ce qui m'a valu une petite notoriété locale, parce que j'étais pas le seul. Il y avait des masses de réfugiés politiques ougandais en Tanzanie. Et dès le départ, si vous voulez, j'ai mis les pieds dans la flaque d'eau, dans le marigot. Et j'ai vu ce qui se passait. Et par exemple, ce qui était très intéressant, c'est que Idi Amin, qui avait obtenu pour ça l'aval de Muammar Gaddafi, posait à l'anti-impérialiste, anti-colonialiste. Il s'était décoré lui-même, d'ailleurs, de l'ordre du vainqueur de l'Empire britannique. C'était un ordre qu'il avait inventé et dont il était le grand maître. Et c'était très difficile, après, parce que j'ai toujours navigué entre l'Europe ou l'Amérique du Nord
et l'Afrique.
Quand je rentrais en Europe, je disais, ce type est un assassin, une crapule, un gangster. Bon. Et souvent, je me faisais attaquer par des gens qui disaient « Non, vous dites ça parce que vous êtes blanc et c'est un anti-impérialiste. » Et ça, c'est terrifiant. Parce que c'est le début d'un processus qui, aujourd'hui, va un petit peu mieux, mais vraiment un tout petit peu mieux, mais pas vraiment bien mieux. Pour vous donner une idée, vous tuez un blanc ou un presque blanc, c'est-à-dire par exemple un japonais. Les japonais sont des blancs d'honneur en Afrique, et maintenant de plus en plus les chinois. Ça fait aussitôt des titres dans les journaux. Je vous donne le bilan humain, par exemple, de la guerre au Soudan, qui a duré 30 ans. Entre un nord arabo-musulman et un sud négro-chrétien, il faut compter, on saura jamais exactement, mais au minimum 500 000 morts. Bon, et c'est pas fini parce qu'à peine les chrétiens sont devenus indépendants, ils se sont mis à se battre entre eux.
au Soudan du Sud.
Qui, entre Sud-Soudanais, et là, il n'y a plus du tout d'islam ni de musulmans. C'est pour ça les gens qui me disaient c'est une guerre religieuse, j'ai toujours dit, ne me faites pas rigoler.
Donc, le propos, Gérard Prunier, de ce tract, c'est de dire qu'en fait, nous ne voyons pas, nous refusons de voir les morts en Afrique, et que donc, par là même, nous refusons de voir le monde en face, le monde comme il est, parce que vous insistez beaucoup aussi dans ce texte pour dire qu'aujourd'hui, un homme, un être humain sur six est africain, qu'à la fin du siècle, ce sera un sur trois, et que donc finalement, ne pas regarder l'Afrique, c'est ne pas regarder le monde.
Et c'est surtout ne pas regarder l'échec des politiques d'aide au développement. Parce que la seule chose qui se développe en Afrique, c'est la population. C'est même pas qu'on refuse de voir, on est totalement aveugle. Vous savez, je ne sais pas comment, je suis pas médecin, mais il y a une certaine maladie des yeux, vous êtes, je ne sais pas comment on dit, vous ne voyez pas les couleurs, n'est-ce pas? Eh ben, nous sommes dans ce cas-là.
Daltonien,
voilà, merci. Nous sommes des daltoniens massifs vis-à-vis de l'Afrique. On voit pas. Les Noirs, ils sont transparents. Alors, la guerre au Sud-Soudan, par exemple, entre chrétiens, a rajouté 450 000 morts. Bon, vous le savez, vous l'avez vu dans les journaux, vous le voyez sur BFM TV ou sur CNN. Non.
Eh bien alors justement, ça c'est très présent aussi dans votre texte, voilà, c'est l'absence de couverture médiatique, en particulier à la télé, vous incitez beaucoup sur la télé, on reparlera de l'image, mais voilà, l'absence de couverture médiatique, en tout cas la très faible part dans la couverture médiatique de ces pays, de ces conflits. Mais alors justement, on peut aussi vous dire que les quelques fois où il est question de pays africains dans les médias, c'est pour parler de conflits et de morts. Et que, est-ce que ça n'est pas aussi un problème de voir tout un continent sous ce seul prisme ?
Oui, parce que ça, si vous voulez, c'est quelque chose. Bon, le cadavre est rentable. Hein. D'ailleurs, c'est ce que Monsieur Kagame a très bien compris après le génocide rwandais. Il a investi dans les cadavres Tutsi. Lui-même, il est Tutsi. D'ailleurs, on peut dire qu'il est pas raciste. Il a eu une rentabilité formidable et il s'est précipité en Israël parce que la mise en perspective et le dividende du cadavre investi est beaucoup plus élevé en Israël. Grâce à Monsieur Adolf Hitler.
Alors, oui, bon, lui... alors ça, on va peut-être pas aller dans cette direction-là.
Mais il a fait exactement la même chose.
Mais sur ce que je vous disais, c'est-à-dire, voilà, en même temps, les quelques fois où on parle dans les médias, justement, de pays en Afrique, vous parliez du Sud-Soudan, il y a eu, précisément récemment, parce que c'était les 10 ans de l'indépendance, des articles, des reportages, justement, sur le Sud-Soudan. Mais voilà, finalement, on ne parle, on peut vous dire aussi, on ne parle que des conflits et des morts.
Oui.
Est-ce que ça, c'est pas aussi...
Pourquoi ? Parce qu'on va parler de l'échec des politiques de développement économique. Non, ça, on n'en parle pas, parce que c'est laissé au bon soin à la fois des intérêts privés. Ne parlons pas des cas absolument grotesques comme le Congo, qui, comme le disaient les Belges, est un scandale géologique et qui représente des milliards de dollars. Et on ne parle absolument pas des bénéficiaires de la richesse minérale congolaise. Alors, évidemment, on ne parle pas de quoi ? Du pillage des ressources africaines avec la complicité. Justement, là, dans la revue de presse, je trouvais très, très amusant et instructif ce que disait votre collègue. Théodoro Obiang, mais enfin, c'est grotesque. Je veux dire, on a un père Ubu. Hein, pour reprendre Alfred Jarry et son personnage historique, on a un Père Ubu comme président. La demoiselle ou la qui apparemment qui voulait épouser son fils, le vice-président, mais ça je ne savais pas. J'ai trouvé ça hilarant.
Hein. On peut réécouter la revue de presse de Marie Viennot sur franceculture.fr. Gérard Prunier, est-ce que il y a deux questions déjà. Est-ce que parler comme ça de l'Afrique, de on veut pas voir l'Afrique, on veut pas voir les cadavres noirs, vous dites dans le texte que quand vous faites des conférences aux États-Unis par exemple, vous commencez par dire que l'Afrique n'existe pas.
C'est exact. L'Afrique n'existe pas, justement, ça fait partie du problème. Pourquoi ? Parce que C'est le seul continent. Bon, le cas de l'Amérique du Sud est quelque chose de spécial. Les Espagnols ont liquidé les États qui existaient et en ont mis d'autres qui sont pas beaucoup plus solides que les États africains, mais qui se sont quand même renforcés avec le temps. Mais autrement, l'Afrique était le seul continent, si on marche continent par continent, qui n'avait pas d'expérience étatique. Pourquoi ? Pour des tas de raisons, parce que d'abord c'est une île, hein, l'Afrique. Si vous regardez la géographie avec un zoom arrière, c'est une île, une gigantesque île. C'est la plus grande île de la planète. Bon, comme était l'Amérique d'ailleurs avant qu'elle rentre dans un système mondial avec les conquêtes coloniales du XVIe siècle. Mais l'Afrique, d'abord, il y a ça. Et ensuite, la réalité géographique et médicale de l'Afrique. Pour vous donner une idée, parce que parfois un petit coup de sonde anecdotique est utile, au Sud-Soudan, qui est un endroit que je connais très bien, les missions au XIXe siècle, c'était avant la période coloniale, hein, avant la période, puisque le Soudan a été d'abord colonisé par les Ottomans, pas par les Turcs, par les Ottomans, ce qui est un petit peu différent. Et après, secondairement colonisé par les Anglais et les Égyptiens en même temps. Mais avant, eh bien, les missions étaient essentiellement austro-hongroises. Ça fait partie de... Bon, eh bien, si vous allez à Gondokoro, au cimetière des missionnaires, il existe toujours, hein, ce cimetière, tout le monde qui arrivait là, qui était des Autrichiens, des Hongrois ou des Tchèques ou des gens comme ça, catholiques, ils étaient morts dans les 2 ans. Je n'exagère pas. Et il en est mort 30, 40. Ça, c'était avant même les pères comboniens qui étaient des Italiens qui sont venus après. Mais l'Afrique est terrifiante, surtout avec le niveau de la médecine qu'on avait jusque, disons, en gros. Après tout, nous n'oublions pas que les antibiotiques datent de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc, et la colonisation, elle date de la fin du 19e siècle. Les étrangers qui arrivaient en Afrique mouraient. Rapidement. Et donc, et également l'espérance de vie des Africains était très courte. Donc, il n'y avait pas d'accumulation de la plus-value, comme aurait dit Karl Marx. Il n'y avait pas d'État. Il y a eu des empires à roulettes qui duraient pas bien longtemps, sauf dans quelques cas très spécifiques autour des Grands Lacs. Le Rwanda, le Burundi, le Bouganda. Là, vous avez des micro-États qui, eux, étaient solides, mais pas d'écriture. Vous rendez compte? Un État sans écriture. Bon, ça, c'est le haut Moyen-Âge en Europe, où vous aviez des États sans écriture, en France, en Angleterre, et dans d'autres endroits, hein. Et l'écriture qui a été apportée en Europe pour l'État, c'était les Arabes en Espagne.
Mais donc, on en était à dire, vous dites que l'Afrique n'existe pas. Est-ce que, dans le discours que vous avez, en disant on ne voit pas les morts africains, on ne voit pas l'Afrique, est-ce que ça pose pas aussi un problème de globalisation, de considérer tout ça comme un bloc?
Mais non, justement. C'est-à-dire que dans le regard du blanc, l'Afrique existe. Mais elle n'existe pas en réalité. C'est-à-dire que de l'intérieur, et si vous remontez du bas de la société vers les États bidons qu'on a créés comme héritiers de la colonisation, ce sont des États en carton, hein, à part l'Éthiopie qui est le seul pays qui a jamais été colonisé, qui est d'ailleurs en pleine guerre civile.
On va évidemment parler.
Oui. Justement, parce que la question c'est comment est-ce qu'on transforme un empire en État-nation. C'est ça qui se débat en Éthiopie. On en est autour de 100 ou 150 000 morts à l'heure actuelle, dont vous ne voyez guère les effets dans la télévision et les médias écrits occidentaux. Mais l'Afrique n'existe pas. Et justement, elle existe dans le regard du blanc. Donc, quand vous dites, et vous avez raison, vous dites, on voit que quand il y a des gens qui se massacrent, on en parle un tout petit peu d'ailleurs, et le cadavre investi est vraiment, à part le génocide rwandais, pourquoi le génocide rwandais nous a choqués? À cause du parallèle nazi. Et là, on avait un truc qui ressemblait à ce qu'on avait connu en Europe. Là, pour un coup, les Africains faisaient un modèle politique que malheureusement, nous ne connaissions que trop bien. Et donc, mon ami Jean-Pierre Chrétien, mon ancien patron au CNRS, a inventé le terme de nazisme tropical. Bah oui, d'accord. Mais il y a plein de massacres qui n'ont rien à voir avec ça. Hein. Par exemple, le Soudan, ou ce qui se passe à l'heure actuelle en Éthiopie, le Sierra Leone, Leone, le Libéria en Afrique occidentale, ça n'avait rien à voir avec le nazisme tropical, c'est tout à fait autre chose.
Mais donc, plutôt qu'un refus de voir, est-ce que le problème, c'est pas une méconnaissance, tout simplement, j'ai envie de dire?
Bah oui, alors c'est curieux, hein. On est méconnaissant de l'Afrique, qui est peuplée de plein de Noirs, alors que, moi je me rappelle pendant la guerre civile en Yougoslavie, qui ressemble étrangement à une situation africaine, hein, dans les années 90, eh ben on a quand même été un petit peu cherché pour comprendre ce que c'était qu'un Serbe, un Croate, un Slovène ou un Bosniaque. Bon, c'est les tribus européennes, ça, hein, bon, qui avaient survécu dans ce cas-là très particulier. N'oublions pas que c'était la cause de la Première Guerre mondiale. Bien. Et ben là, on a quand même mis notre nez dedans jusqu'à essayer de comprendre. En Afrique, on n'essaye pas.
Et comme vous dites dans le livre, si on n'est pas entraîné à voir quelque chose, on ne le voit pas. Pour terminer, avant 8h, Gérard Prunier, nous parlerons ensuite précisément de l'Éthiopie. Vous insistez sur les images, sur la couverture médiatique à la télévision en particulier. Pardon pour cette question, mais qu'est-ce que ça change de montrer les morts à la télévision ?
Eh bien, ça change que, par exemple, la guerre du Vietnam, elle a évolué comme elle a évolué parce qu'on montrait les morts à la télévision. Et là, vous avez quelque chose de massif. Nous sommes dans la civilisation de l'image. Malheureusement, personne ne lit plus ce qui est écrit. D'ailleurs, je ne sais pas qui lira encore mon truc, hein. Mais on montre les cadavres et là, il y a un effet de sidération. Oui. Moi, je vivais aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Eh ben, je vous garantis qu'elle n'aurait pas évolué. Westmoreland et toute la bande d'assassins qui représentait l'armée américaine à l'époque, non, ça n'aurait pas évolué de la même manière si on n'avait pas vu ces cadavres. On les a vus, ça a fait un impact réactionnel sur l'Amérique elle-même. Et les révoltes étudiantes américaines datent de cette époque.
Et en même temps, on se rappelle de la photo de ce petit garçon syrien, Alan Kurdi. Certains ont déploré, à l'époque justement, la photo avait fait la une, précisément, le fait qu'il nous faille cela pour comprendre, du moins pour être interpellé. Et du reste, ça n'a pas changé grand-chose à la guerre en Syrie, ni au sort de nombreux réfugiés.
Non, ben bien sûr, mais vous voyez la photo de la petite Vietnamienne à poil qui court après avoir été partiellement napalmée, c'est une photo qui a fait le tour.
Ou celle de la petite fille en 93 en Éthiopie aussi, avec le vautour, je dis, ou celle aussi avec la petite fille justement en Éthiopie. En 93 avec le vautour.
Ah ben ça, je vois pas de petite fille en Éthiopie. Je sais pas, parce que comme j'y vivais, probablement ça m'est pas passé sous le nez. Parce qu'il y a plus d'effets dans les médias quand jamais ils s'en soucient. Mais la question, c'est que justement, c'est du spectaculaire marchand. Comme disait Guy Debord, j'ai bien aimé la citation de votre collègue tout à l'heure. C'est du spectaculaire marchand. C'est pas de la réalité.
Mais donc,
eh ben, il faudrait peut-être s'apercevoir qu'avec 1,3 milliard de Noirs, à un moment ou un autre, ils vont mettre les pieds sur la table. Et franchement, on peut pas leur en vouloir. Parce que vu qu'on leur a injecté le colonialisme et qu'après on les a laissés tomber avec ces états bidons dans lesquels ils essayent de vivre, avec d'excellents médecins et pas de développement économique, eh ben, c'est évidemment, vous avez une démographie qui flambe complètement. Et puis après, dépatouillez-vous avec les résultats. Eh ben, il faut pas s'attendre à ce que les résultats soient sympathiques.
Vous restez avec nous, Gérard Prunier sur France Culture. Je rappelle donc votre tract Cadavre Noir, tract Gallimard, qui est aussi un podcast sur franceculture.fr, tract le podcast. Vous restez avec nous, nous vous retrouvons après le journal de 8h à 8h20 pour parler précisément de l'Éthiopie.
France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Il est 8h20 et nous retrouvons notre invité Gérard Prunier. Nous avons parlé avant 8h de votre texte récemment publié dans la collection Tracts de Gallimard, Cadavre Noir. Vous êtes historien spécialiste de la Corne de l'Afrique, ancien chercheur au CNRS, désormais consultant indépendant. Et j'aimerais que l'on parle avec vous jusqu'à 8h30 de la situation en Éthiopie. Vous en parlez à la toute fin du tract avec cette guerre au Tigré qui a commencé en novembre dernier quand le premier ministre prix Nobel de la paix Abiy Ahmed a lancé une offensive contre cette région et ses dirigeants issus du front de libération du peuple du Tigré qui était au pouvoir en Éthiopie jusqu'en 2018. Ces dernières semaines, le conflit s'étend. Que dire de l'évolution de cette situation, Gérard Prunier? Qu'est-ce qui se joue là en ce moment en Éthiopie?
On peut dire que c'est l'échec de la révolution éthiopienne de 1974 qui avait abouti à un pouvoir marxiste-léniniste militaire qui n'a rien solutionné. Et quand Meles Zenawi a pris le pouvoir en 1991, lui, il a dit « Moi, j'ai la solution parce que notre vrai problème, il est ethnique, donc je vais créer un système de fédéralisme ethnique ». Or, c'est tout le problème du seul État durable en Afrique. Il n'y en a pas d'autre.
Je vous disais tout à l'heure.
Oui, c'est le seul qui n'a jamais été colonisé, parce que l'occupation italienne, après 1936, ça a duré moins longtemps que l'occupation des Allemands en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas du tout un phénomène de colonisation. Il n'y a pas eu une transformation profonde de la société par les Italiens. Et on a un empire multinationale, qui a 2000 ans. c'est quelque chose qui est pas du tout africain. C'est en Afrique, mais c'est pas de l'Afrique. Et, cet empire n'a pas réussi à opérer la translation d'un empire multiethnique à un État-nation. C'est le problème, si vous voulez, de l'Empire ottoman ou de l'Autriche-Hongrie ou de tout. Bon, Jean-Baptiste Durosel a écrit un livre qui s'appelait « Tout empire périra ». Ben, voilà, c'est la question qui se pose à l'heure actuelle. Est-ce que l'Éthiopie est en train de mourir ou pas?
Parce que donc, il faut rappeler qu'il y a 10 régions. C'est ça, qui sont semi-autonomes. Et donc là, ce qui se passe, c'est que le conflit au Tigré est en train de s'étendre, en fait, avec sur les régions voisines. On parle de balkanisation, de risque de balkanisation de l'Éthiopie. En réalité, ça fait apparemment longtemps déjà qu'on parle de ça. Est-ce que cette lecture est la bonne?
Oui. Et l'image que vous pouvez avoir, c'est celle du petit caillou, c'est publicité de Carglass qui frappe votre pare-brise. Et puis tac 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 tac, la fente s'élargit. Donc on est parti avec le Tigré parce que l'attitude du prix Nobel de la paix, c'est quand même assez extraordinaire. C'est le seul prix Nobel de la paix qui est en train de commettre un génocide. C'est quand même assez paradoxal.
Vous utilisez le mot génocide pour ce qui se passe en ce moment.
Il n'y a aucun doute quand on voit la manière dont lui et ses alliés érythréens se sont comportés au Tigray. Alors évidemment, le problème, c'est que beaucoup de gens détestent les Tigréens. Parce que pendant les 30 années où ils ont été au pouvoir, ils se sont remplis les poches et ils ont monopolisé le pouvoir. C'est pas exactement quelque chose qui vous rend populaire et qui provoque la joie de la population. Mais c'est pas une raison pour tous les tuer. Il n'y a pas eu de négociation. C'est-à-dire que dans cet ensemble multiethnique, multinational et multiculturel, les Tigréens ont dit bon bah on a perdu le pouvoir au centre, on fait notre petit business tranquille dans notre coin et on fait des élections.
Ils ont
évidemment gagné.
Voilà, au Tigré.
Ils ont gagné les élections puisqu'ils étaient du Tigré impur fil au Tigré. Et au lieu d'essayer de négocier. Mais ça, il faudrait que Abiy Ahmed soit quelqu'un qui soit intellectuellement et culturellement capable de négocier. Il en est totalement incapable. Son attitude, ça a été « je mets le poing sur la table, si le poing ne suffit pas, j'ai un revolver et je tire ». C'est pas comme ça qu'on va arriver à une solution, hein. Très peu.
Je reviens quand même sur ce mot de génocide que vous employez. Ça veut dire donc, si vous dites ça, que c'est vraiment, selon la définition du génocide, c'est l'intention de détruire tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Donc là, c'est ça.
Absolument. Et d'ailleurs, on a même parmi les prisonniers de guerre, surtout les Érythréens, parce que les Érythréens sont rentrés, alors que l'Érythrée est une ancienne province de l'Éthiopie qui a fait sécession en 1993. Et je connais très bien la question puisque j'étais là-bas au moment du référendum de sécession. Ils sont revenus avec une véritable vengeance. C'est-à-dire, non seulement ils s'adressent à un morceau du pays qui avait été leur colonisateur intérieur, un petit peu comme, si vous voulez, la situation du Sud-Soudan entre le Nord et le Sud. Et puis maintenant, ils se vengent. Et les instructions qui ont été données aux sous-officiers, parce que c'est les sous-officiers qui manipulent une armée, c'est pas les officiers, c'est les sous-officiers, sont terrifiantes.
Et on peut rappeler que le prix Nobel de la paix, c'était justement, à Abiy Ahmed, c'était justement pour avoir mis fin au conflit conflit avec l'Érythrée.
Mais comme d'habitude, les Blancs n'ont rien compris. Parce que, en fait, sa réconciliation avec l'Érythrée, c'était pour prévoir et organiser à l'avance l'invasion de l'Éthiopie par son ancienne, disons pas colonie, mais disons segment qui avait été manipulé par les Amaras et par d'autres groupes dominants en Éthiopie et envahir leur ancienne métropole.
Alors là, ce qui se passe, c'est que bon, on dit il y a des milliers de morts, il n'y a pas de bilan précis, en tout cas officiel, on va dire. Ce qui est chiffré, en revanche, c'est 400 000 personnes en situation de famine, selon l'ONU. Plus de 60 000 personnes qui ont déjà fui vers le Soudan, et ça continue. Qu'est-ce que la question qu'on pose dans ces cas-là, toujours, Gérard Prenier, c'est aussi, là, ça s'est donc étendu à différentes régions de l'Éthiopie, la question, c'est aussi quel impact ça peut avoir, ce conflit, plus largement sur la région.
Bon, pas tellement, parce que c'est une telle catastrophe régionale tout autour.
De toute façon.
Qu'on parle du Sud-Soudan, par exemple, c'est épouvantable. On parle de la Somalie, il y en a 6 ou 7. On parle encore de la Somalie, alors que ça n'a plus aucun sens. Justement, le Somaliland, lui, est un État-nation qui a réussi à émerger dans les débris. Mais si on regarde tout le Bénadir, la région du Gedo, le Galmoudoug, excusez-moi pour ces noms géographiques avec lesquels vous n'êtes pas familier, mais tout ça, ce sont des morceaux qui sont devenus des micro-États, qui marchent plus ou moins bien dans certains cas. Il y en a un au nord qui marche assez bien, presque aussi bien que le Somaliland. Les autres... Alors donc, l'Éthiopie ne peut pas contaminer ce qui l'entoure, parce qu'elle est déjà dans un tel état de désagrégation que la contamination est peu probable.
Sans faire la boule de cristal, Gérard Prenier, comment ça peut évoluer? Où est la clé de ce qui se passe aujourd'hui là?
Ben, d'une manière ou d'une autre, il faudrait arrêter la guerre. Alors ça va peut-être être le cas si le général Tsat Khan, qui est un génie militaire et qui est en train vraiment de, avec son espèce de bande d'anciens combattants guerriers héros, il est en train de se diriger vers une reprise du pouvoir. Toute la question, c'est que va-t-il en faire? Parce que si c'est pour refaire 1991 et dire nous...
Ce général-là, il faut nous dire un peu qui c'est.
Oui, 1991, c'est la prise de... C'est quand ils éliminent les communistes et que Meles Zenawi prend le pouvoir et le donne aux Tigréens. Ça devient un pouvoir ethnique. Et si c'est pour refaire la même chose, c'est même pas la peine. Parce que ça partira en morceaux à nouveau, ça sera juste une généralisation de l'anarchie. Mais si c'est pour dire, bon, on fait une conférence nationale, on arrête de tirer, et on rassemble les gens, surtout des 5 ou 6 ethnies dominantes, les Somalis, les Afars, les Amaras, les Oromos. Excusez-moi, les auditeurs sont probablement pas très familiers.
Mais non, mais vous êtes là pour ça aussi. Oui, et on peut regarder une carte de l'Éthiopie avec les différentes régions. Et
si vous voulez, vous avez 5 ethnies en Éthiopie qui représentent 80% de la population. Alors on vous dit, oui, il y a 80 ethnies. Bon, d'accord, c'est vrai, mais vous en avez plein qui font 10 000 personnes. Et vous avez par contre des groupes comme les Oromos qui représentent 35-40 millions de personnes. Est-ce qu'on peut encore parler d'une tribu avec 40 millions de personnes? C'est un peuple.
Eh ben merci. Non, vous vouliez conclure, je vais terminer.
Non, mais malheureusement, il n'y a pas de conclusion.
Oui, voilà,
la conclusion, elle arrivera si Addis Abeba tombe. Mais il faut que Monsieur Abiy tombe, parce que c'est lui qui a été la cause de cette catastrophe. Mais catastrophe qui était en état de suspension animée et qui l'a précipité. Il a été l'élément qui a, disons, coagulé tout ça.
Merci Gérard Prenier, historien spécialiste de la Corne de l'Afrique donc. Je rappelle votre texte « Cadavre noir » publié dans la collection Tract Gallimard et aussi Tract le podcast, donc à retrouver sur franceculture.fr. Merci d'être venu sur France Culture ce matin. Dans 5 minutes, l'esprit des lieux avec Zoé Sfez, il est 8h30.